Il y a plusieurs passages de l'Évangile qui nous parlent de Jésus et de son intervention dans le temple. C'était bien sûr un temple en pierre. Mais ce que le Seigneur a fait pour le temple en pierre, eh bien, il le fait maintenant dans notre vie, dans notre existence. Il le fait dans notre église, dans notre assemblée. Il le fait dans son église d'une manière générale. Et ça peut nous aider, bien sûr, à apprendre ou encore à redécouvrir ce que Christ, eh bien, veut encore faire en nous et pour nous. Et ça va être un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2 et le verset 46, il est dit ceci. Luc, chapitre 2, verset 46. Je ne lis pas tout le passage, mais juste ce qui nous intéresse. À la maison, bien sûr, vous pouvez après lire tout le paragraphe. C'est lorsque Jésus, à 12 ans, se retrouve dans le temple. Verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Voilà une première intervention de Jésus dans le temple d'Israël, le temple qui était à Jérusalem. Bien, Jésus va, à 12 ans déjà, donner, on va dire, quelque chose de très important comme leçon, non seulement à ses parents, mais aussi à tous ces religieux qui étaient là. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus rappelle que la priorité de toutes les priorités, c'est celle de Dieu. Ni nos priorités à nous, ni la priorité de la famille, ni la priorité de qui que ce soit, ne doit primer sur celle de Dieu. Ses parents et les docteurs de la loi avaient besoin de revenir à cela. Nous savons que quand Jésus est venu en Israël, il y a un peu plus de 2000 ans, eh bien, la foi n'était pas au beau fixe. Il n'y avait pas quelque chose de réel entre le peuple et Dieu. C'était devenu simplement une religion avec beaucoup d'interdictions, avec beaucoup de règles, etc. Mais le cœur n'y était pas. Pourquoi ? Parce que il y avait peut-être un beau temple, une magnifique construction, mais ce n'était plus la priorité. Dieu n'était plus le propriétaire, et je dirais le locataire principal de ce temple. Et Jésus, donc, va remettre cette idée en place. Je crois que nous avons besoin de réaliser que seul le Seigneur est important. Seul le Seigneur est essentiel. Nos idées, nos projets, tout ce que nous pourrions imaginer, même s'ils ont une certaine valeur aux yeux des autres, eh bien, n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, nous avons là ce qui est le plus important. Et Jésus, donc, veut chaque jour mettre les affaires de son Père, mais qui est aussi notre Père. Il veut les mettre en priorité dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre famille, dans notre existence. Il veut rétablir les priorités. Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de priorités qui nous sont imposées ou qui voudraient envahir notre cœur, envahir notre existence, mais rappelons-nous que d'abord, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça notre priorité. C'est ce que Jésus va expliquer à ses parents. Il ne va pas quelque part les juger ou les condamner, mais il va simplement leur dire, écoutez, il faut d'abord que je m'occupe des affaires de mon Père. Et moi, je me réjouis de savoir que dans ma vie, le Seigneur veut s'occuper des affaires de son Père, parce que c'est aussi mon Père. Dans votre vie, il veut s'occuper des affaires de son Père, mais de votre Père aussi. Et je crois que les affaires de Dieu, c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui, eh bien, n'est pas en danger comme les affaires de ce monde. où il y a tellement de corruption, où il y a tellement d'échecs. Les affaires de Dieu, c'est son royaume, et nous savons que le royaume de Dieu est en train de se mettre en place déjà dans notre cœur, mais viendra un moment où ce royaume se mettra aussi en place sur cette terre pour prouver aux hommes que Dieu avait raison depuis le début et que c'est lui qui a le dernier mot. Sans vous faire lire les autres passages, mais c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, verset 12, il nous est dit que Jésus, à un moment donné, est entré dans le temple. Et vous savez ce qu'il a fait dans le temple ? Eh bien, il a chassé les trafiquants. Il a chassé tous ceux qui étaient là et qui avaient dressé des tables pour de la vente. Alors, bien sûr, c'était en religion avec les sacrifices qui se faisaient. Sous le couvert de la religion, malgré tout, on en a fait une maison de trafic. Et Jésus, justement, reproche. La maison de Dieu doit être une maison de prière et non une caverne de voleurs. Il le dit cela à des religieux qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Mais le temple était devenu un endroit de marchandage, de trafic, au lieu d'être un endroit de prière. Dans notre vie aussi, Jésus veut faire le ménage. Il ne faut pas se contenter d'avoir que Jésus a fait le ménage à notre conversion. Il ne faut pas se contenter que le Seigneur fasse le ménage simplement de temps en temps. Non, non, c'est comme à la maison. Je crois que les dames, même des messieurs des fois, participent au ménage et font en sorte que la maison soit habitable, présentable, accueillante, etc. Eh bien oui, le Seigneur est celui qui peut le mieux s'occuper de sa maison, et si nous sommes sa maison, et si nous lui donnons l'autorisation, il est celui qui est capable de faire le ménage. Alors vous diriez, mais quand même, pasteur, là vous dites que on est comme le temple de Jérusalem, que notre maison, notre vie est une caverne de voleurs, est-ce que c'est pas un peu fort? Peut-être que ça n'est pas aussi loin que cela, mais quelle sorte de trafic peut-il y avoir dans notre vie, dans notre existence? Nos pensées. Des fois, il y a un trafic de pensées. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. Quelqu'un a dit que les pensées, c'est comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête, mais on n'est pas obligé de laisser les oiseaux s'installer sur notre tête et en faire un nid. Mais les pensées sont là. Il y a des trafics de pensées. Des trafics de sentiments, quelquefois, on joue avec Dieu et avec nos sentiments, on essaye de jouer avec Dieu. Des fois, c'est des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tellement de choses qui peuvent venir dans cette maison de Dieu que nous sommes et être semblables à ces choses qui n'ont pas leur place dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Des vols de temps à Dieu. Combien de fois, nous ne donnons pas à Dieu le temps qu'il devrait avoir. Quelquefois, nous volons même le temps aux autres, le temps qui est réservé aux autres. Il y a des marchandages d'émotions, de bénédictions et autres. Tellement de choses qui peuvent faire en sorte que notre vie n'est plus cette maison de prière, de louange, d'adoration que le Seigneur voudrait trouver chaque fois qu'il vient donc dans notre vie. Alors Jésus est venu et il va chasser toutes ces choses qui n'ont pas leur place. Je dirais même qu'ils n'ont plus leur place. Si c'était avant, on peut comprendre, mais ils n'ont pas leur place puisque maintenant nous appartenons au Seigneur. En pensant à ce message ce matin, je me disais, mais peut-être quelqu'un va dire, mais voilà le texte sur lequel je peux me baser pour me mettre en colère. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il s'est mis en colère. Attention, frères et sœurs, notre colère à nous n'a rien à voir avec celle de Dieu. La colère du Seigneur, elle est juste. En fin de compte, c'est sa justice qui entre en action. Tandis que notre colère à nous, elle n'a rien à voir. Et il y a pas mal de chrétiens et même des pasteurs, des fois, qui ont trouvé là le bon fondement pour dire, j'ai le droit de me mettre en colère. Moi, je sais que je ne connais pas de sainte colère, seulement celle de Dieu. En tout cas, nous avons besoin de laisser le Seigneur venir faire le ménage dans notre vie, dans notre cœur, dans notre existence. Il est celui qui a ce pouvoir-là. D'ailleurs, il l'a fait avec une autorité que personne n'a pu contester. Et vous vous rendez compte que si nous laissons le Seigneur venir en nous et jeter en dehors de notre vie tout ce qui n'est pas à sa gloire, c'est formidable, parce que ça va être un temple, une maison qui va être extraordinaire et qui va plaire au Seigneur. Laissons-le faire ce ménage. Nous savons que lorsque Dieu est rentré dans notre vie, lorsque nous nous sommes convertis, il a fait déjà un ménage extraordinaire. Il a pu chasser tout ce qui était mauvais, tout ce qui nous asservissait, tout ce qui nous humiliait, etc. Mais laissons-le continuer à prendre soin de sa maison. Il peut le faire de la meilleure manière possible. Chapitre 21, toujours, le verset 14, il nous est dit que dans le temple, Jésus a guéri beaucoup de malades, Jésus a chassé des démons, Jésus a manifesté ainsi la puissance de Dieu. Moi, je crois que aujourd'hui, la guérison, la délivrance, le relèvement de la part de Dieu sont toujours d'actualité. C'est valable encore pour nous, c'est valable aussi pour notre assemblée. Est-ce que nous y croyons vraiment? Est-ce que nous sommes encore attachés à cette assurance que Dieu est celui qui apporte le secours dont nous avons besoin? L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est sur le trône, Jésus est sur le trône de la grâce, que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance et que nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Peut-être est-il important de dire que le Seigneur ne nous secourt pas ou ne nous délivre pas toujours comme nous on se l'imagine, comme nous on le croit, comme nous on le voudrait, mais il le fait toujours de la bonne manière. Je dirais même, il le fait de la meilleure manière possible. Laissons le Seigneur manifester sa puissance dans notre vie. Donnons-lui l'occasion de le faire. Vous savez que lorsque Jésus a fait cela, eh bien, il y a eu une opposition. Les principaux chefs religieux, ils ont dit, mais c'est pas normal, tu mets de la panique là, tu bouleverses notre tradition, tu perturbes les choses. Ah, moi je voudrais que le Seigneur nous perturbe, hein, parce que ça c'est de la bonne perturbation. Je voudrais que le Seigneur peut-être agisse encore plus que ce qu'il fait. Mais laissons-le, eh bien, le faire à sa manière. Dieu a encore besoin de nous, parce qu'il le désire, pour manifester son pouvoir. Nous sommes les premiers à connaître, à goûter, à apprécier ce pouvoir de Dieu. Et au travers de ce que Dieu fait dans notre vie, c'est aussi un témoignage pour ceux qui se passent à l'extérieur. D'ailleurs, à chaque fois que Jésus fait quelque chose dans notre vie, non seulement nous en sommes les premiers bénéficiaires, mais ça fait de nous aussi des occasions de témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé des priorités. Eh bien oui, un chrétien, par sa manière de vivre et parce qu'il a donné priorité à Dieu, est un témoignage pour ceux qui, en dehors, vivent de n'importe quelle manière. Si notre vie est propre, si notre vie est bien ordonnée, bien rangée, nous sommes un témoignage pour ceux qui sont à l'extérieur. Et s'il y a cette manifestation de la puissance de Dieu, nous sommes encore un témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur, lui, il est toujours disponible et toujours disposé. Et nous, est-ce que nous sommes toujours disposés? Je crois que là, on a besoin de rentrer en soi-même et d'être honnête en disant, ah, des fois, on n'a pas trop envie. Hein? Des fois, on n'a pas toujours le temps. Le Seigneur, lui, il est toujours disposé, il a toujours envie de nous bénir, de nous secourir, et il est toujours disponible. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de retraite pour le Seigneur. Il n'y a pas de RTT pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore? Non, il est toujours disponible. Hein, à n'importe quel moment de notre vie, nous pouvons nous adresser à lui. Et il est celui qui nous écoute. Il est celui qui nous comprend. Et il est celui qui répond à notre prière, parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Dans ce temple, non seulement Jésus a chassé les trafiquants, non seulement il a manifesté la puissance de Dieu, mais il nous est dit aussi donc qu'à un moment donné, des enfants, il y a eu un mouvement de louange, il y a eu quelque chose qui a amené les gens à glorifier le Seigneur. Mais c'est sûr, ils ont vu que Jésus faisait la propreté, Jésus rétablissait le vrai temple, que Jésus manifestait la puissance de Dieu. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, ils ont commencé à louer Dieu. Je crois que c'est normal de louer Dieu quand on voit ce qu'il fait. Et encore ces religieux qui étaient là, et qui ont demandé au Seigneur d'arrêter toutes les choses. Mais Jésus a dit que Dieu tire même la louange de la bouche des enfants. Même un enfant est capable, lorsqu'il est heureux, lorsqu'il est satisfait, de dire merci. Hein? Je crois que c'est pour ça qu'on a besoin des fois de redevenir des enfants. Parce que des fois, par rapport à Dieu, on a beaucoup de facilité à lui faire notre liste de courses, là. Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur. Et puis quand il a fait, souvent, ben, on ne dit pas toujours merci. Hein. À nos enfants, on leur fait le reproche. Et des fois, quand Dieu nous fait le reproche de ne pas être assez reconnaissant, on boude un peu. Hein. Ben oui, la louange. Nous devons être une occasion de louange, déjà pour nous-mêmes. Nous devons être des sujets de louange pour le Seigneur à cause de tout ce qu'il manifeste en nous, mais nous devons être aussi pour les autres. À cause de ce qu'ils voient, ce que Dieu fait en nous et au travers de nous, eh bien, qu'ils aient envie de louer le Seigneur. C'est quand même plus agréable si notre voisin pouvait dire « Ah, vous êtes vraiment béni du Seigneur, ça donne envie de connaître le Dieu que vous servez. » C'est quand même mieux ça qu'autre chose. C'est ce que le Seigneur veut. Il inspire la louange. Oui, le Seigneur tire la louange encore plus du cœur de ses rachetés. S'il est capable de tirer la louange des enfants, de ceux, la Bible dit, de ceux qui sont à la mamelle encore, donc même des bébés, à plus forte raison, doit-il tirer la louange du cœur de ses rachetés, nous qui lui devons tant. Vous savez que quand le Seigneur nous sauve, le premier but, c'est de faire de nous ses enfants. Le deuxième but, c'est de faire de nous des adorateurs. Mais pas des adorateurs silencieux. Pas des adorateurs simplement, on va dire, d'une manière discrète, cachée, non. Un adorateur, c'est quelqu'un qui rend un culte, et d'une manière visible, d'une manière audible, que nous soyons vraiment de ceux qui louent le Seigneur, de ceux qui l'adorent. Il y a tellement de raisons de louer le Seigneur. Il y a tellement de raisons. Mais nous nous sommes souvent tellement habitués aux bénédictions de Dieu, aux privilèges que nous avons, que des fois, eh bien, nous avons du mal de trouver des sujets de louange. Mais si on y réfléchissait un petit peu, nous aurions tellement de sujets pour louer le Seigneur que nous n'aurions plus le temps pour lui demander des choses. Et puis, même quand on ne demande pas, le Seigneur nous donne, parce que c'est notre Père. Et il nous donne toujours ce qu'il faut. Alors oui, que notre louange soit toujours abondante dans notre cœur. Et l'apôtre Paul demandait aux chrétiens de louer par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes, par toutes sortes de moyens, on va dire. Et aujourd'hui, nous avons toutes ces choses-là pour louer le Seigneur, pour le célébrer. Il en est tellement digne. Est-ce que Jésus inspire toujours notre louange? Est-ce qu'il est l'objet de notre louange? Est-ce qu'il est le but de notre louange, de notre adoration? C'est ce qu'il a rétabli dans le temple. Parce que les gens, eh bien, étaient habitués à venir simplement pour des offices religieux, mais ça s'arrêtait là. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et c'est le verset 55, il est dit « Il s'assit dans le temple, et là, il a enseigné la foule. » Voilà. Jésus a enseigné. Alors bien sûr, nous savons que ça ne se passait pas dans le temple, dans la partie principale, c'était dans la cour du temple que ça pouvait se rassembler. Mais ça faisait partie du temple et il est dit dans le temple. Est-ce que le Seigneur ne veut pas aussi venir dans notre vie, dans notre existence, dans notre Église aussi, comme étant celui qui enseigne, celui qui instruit, celui qui continue à nous apprendre. Tout à l'heure, mon petit-fils qui est venu avec nous au culte, sa maman lui demandait donc de bien écouter ce que papy va dire à la prédication. Il dit « Ah mais non, je sais déjà tout. je connais toutes choses. » Voilà, ça c'est l'enfant, hein, voilà. Mais vous ne croyez pas que des fois, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a la même réaction. On dit « Seigneur, oh mais ça je connais. Oh ça Seigneur, j'ai plus besoin d'apprendre. » Non, jusqu'à la fin, nous serons des apprenants. Nous serons des apprentis, nous serons des disciples, des élèves. Moi, ça fait... Ouf, des fois, j'arrive même plus à calculer, parce que j'ai plus vécu en étant né de nouveau qu'en étant pas né, comme le poisson. Non, c'est pas ça. Ça fait 45 ans que je suis né de nouveau. Alors, voilà, on connaît le Seigneur, mais... Chaque jour, on en apprend encore davantage. Hein? Chaque jour, le Seigneur est capable de nous instruire, de nous apporter encore quelque chose. Même si on a lu la Bible des dizaines de fois en entier, eh bien, un jour, on passe sur un passage et hop, il y a une vérité là qui nous saute au cœur, pas au visage, heureusement, hein, qui nous saute au cœur et qui nous fait un bien fou parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est quelque chose qui est là. C'est merveilleux de savoir comment le Seigneur instruit, mais il instruit ceux qui l'écoutent. Tous les gens étaient invités à son enseignement. Il est dit que la foule, elle était là. Mais on sait que dans cette foule, il y a eu seulement une partie qui vont l'écouter. Jésus veut nous enseigner, nous instruire personnellement. C'est pour ça qu'il fait de nous sa maison. Et c'est une maison où il continue à enseigner, personnellement, mais aussi pour la communauté que nous formons. Mais à nous d'être à l'écoute, d'être attentifs, d'être réceptifs. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu. Vous connaissez Marie, la sœur de Marthe. Quand Jésus vient dans sa maison, elle laisse tout, elle s'assoit au pied du Seigneur et elle l'écoute. Parce que, qu'est-ce qu'elle pouvait offrir au Seigneur de valable? Tandis que sa sœur, elle met le Seigneur dans un fauteuil et elle fait tout ce qu'il faut. Elle veut lui montrer qu'elle est une parfaite maîtresse de maison, qu'elle est capable de faire une bonne cuisine, que tout est propre, etc. Mais elle n'a pas le temps d'écouter le Seigneur. Et Jésus le lui fait, hein, ce reproche. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Des fois, nous faisons comme Marthe, hein. Nous sommes tellement préoccupés par notre existence, avec tout ce qui se passe, que nous oublions de nous asseoir au pied du Seigneur et de l'écouter. Je disais vendredi, avec le Seigneur, nous avons la meilleure place et la meilleure part. Et ça, des fois, on l'oublie, hein. On veut en mettre plein la vue au Seigneur, mais... Il a des yeux qui ne se laissent pas éblouir par quoi que ce soit. Hein? C'est lui qui peut illuminer notre vie, c'est lui qui peut nous instruire. Il est notre professeur particulier et il a toutes sortes de méthodes pour nous instruire. Il le fait au travers de sa parole, il le fait au travers des frères et sœurs. Il peut même se servir des fois des personnes à l'extérieur pour nous parler, pour nous donner un enseignement. Le Seigneur est extraordinaire. Alors oui, continuons à être de ceux qui se laissent instruire par le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure donc, Jésus veut nous enseigner, nous instruire, mais à nous d'être à l'écoute. Vous connaissez la différence entre écouter et entendre, hein? Voilà. C'est pas la même chose, hein? Écouter, c'est prêter attention. C'est se fixer sur la personne qui parle, le message qui est apporté. Entendre, mais pendant que moi je vous parle, bien j'entends le ronronnement des appareils qui sont là. Je peux entendre une voiture qui passe dans la rue, mais ça ne me préoccupe pas. Voyez. Et vous, si vous êtes à l'écoute, bien vous entendez ce que je dis, mais vous n'entendez pas peut-être un enfant qui pleure, etc. Vous n'écoutez pas ça. Hein. Je crois que on a besoin de fixer notre attention. Le Seigneur a tellement encore de choses à nous dire. Et puis, pour terminer, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, vous connaissez ce magnifique passage de la femme adultère. Il nous est dit que ça s'est passé donc dans la cour du temple. Ça s'est passé dans cet endroit-là. Et si les religieux, les gens de l'époque ont manifesté de la dureté, de l'indifférence, de la méchanceté, on va dire tout ça à l'égard de cette femme, Jésus, lui, va manifester les compassions de Dieu. C'est un des plus beaux récits du pardon et de la grâce que Dieu accorde. Quand on lit ce passage, on est bouleversé, on est tellement interpellé par la grandeur de l'amour de Dieu pour le pécheur. Pas pour le péché, mais pour le pécheur. Cette femme qui est condamnée, qui est jugée, qui est condamnée, qui est donc toute seule là devant tous ses accusateurs. Et c'est Jésus qui va prendre sa défense. Il est le seul. Et nous savons de quelle manière il l'a fait, en fermant la bouche de tous ceux qui étaient là et qui se prenaient pour des saints, des grandes personnalités spirituelles. Jésus va leur fermer la bouche parce qu'il va montrer que il est ce cœur de Dieu qui est tourné vers l'homme malgré son péché et qui veut donc tendre la main au pécheur pour l'en sortir et le délivrer. En nous aussi, le Seigneur a manifesté ses mêmes richesses. Nous sommes la preuve que Dieu est amour. Les gens, des fois, se disent « Ah, s'il y avait un bon Dieu, si ceci, si cela », mais nous sommes, nous, les preuves que Dieu est amour, que Dieu a vraiment envie de sauver les êtres humains, les hommes, etc., parce que nous l'avons expérimenté, et il faut qu'il voie en nous, il faut que les gens qui sont autour de nous voient en nous cette compassion de Dieu. Il ne faut pas qu'ils se sentent jugés, ils se sentent quelque part méprisés, parce qu'ils sont encore, eux, dans leur péché. Mais puisque le Seigneur a manifesté de la compassion et de la grâce pour nous, à nous aussi d'être de ceux qui accueillent les pécheurs, pour que, au travers de la parole de Dieu qu'ils vont entendre, ils reçoivent eux aussi le secours et le si grand salut que Dieu a préparé. Sommes-nous des lieux de pardon? Sommes-nous des lieux de réconciliation pour les autres? Des lieux de relèvement? Ou alors des lieux de critique, de préjugés, de jugement des autres? Paul disait aux chrétiens de Corinthe, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Même si je déplace des montagnes par la foi, même si je parle la langue des anges, même si je m'immole par le feu, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et dans cette histoire, dans cet événement, Jésus a montré que Dieu était vraiment amour. Et que cet amour était capable, on va dire, de tendre la main à quelqu'un qui était vraiment très bas tombé. Et surtout, bien sûr, de la sortir de là, sans en être lui-même quelque part touché par le péché. Il est celui qui peut plonger sa main dans notre vie de péché pour nous en sortir et nous mettre ainsi donc dans sa famille, nous mettre ainsi dans son chemin, nous mettre ainsi dans son plan d'amour. Jésus a fait encore beaucoup pour que le temple redeviennent ce pourquoi il était destiné, le temple d'Israël. Le Seigneur a essayé, il a manifesté beaucoup de choses, il a donné beaucoup d'enseignements pour que ce temple redevienne ce qu'il devait être. Malheureusement, on sait que le peuple ne l'a pas voulu. Et le temple sera détruit. Si Jésus, lui, meurt en 33 à peu près, on sait qu'en l'an 70, le temple sera rasé. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas saisi l'occasion. L'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, il sera détruit. Eh oui. Donc il y a là quand même un avertissement pour nous solennel. Nous avons besoin que notre vie reste et demeure la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Et que l'Église, d'une manière donc communautaire, soit cette maison de Dieu, cette maison de prière, cette maison d'adoration, cette maison de compassion, cette maison où la puissance de Dieu se manifeste. C'est beau et c'est bon de savoir que partout où nous sommes la maison de Dieu. C'est pas simplement dans ces quatre murs, heureusement. Hein. Ces quatre murs, c'est simplement quatre murs. Hein. C'est pas ça le temple, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est chacun de nous et c'est nous ensemble. Et c'est bon de savoir que partout, eh bien, où nous vivons, nous pouvons permettre au Seigneur donc de continuer son œuvre en nous, mais aussi de faire son œuvre au travers de nous et autour de nous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier. Jésus fait beaucoup plus encore aujourd'hui pour que ce temple que nous sommes, individuellement et communautairement, devienne et soit ce pourquoi Dieu nous a destinés. Il nous a destinés à être la maison de Dieu. Hein. Et le Seigneur a fait et fait encore tout ce qu'il faut. Il nous appartient alors de lui permettre de régner et de tout diriger dans notre vie pour sa gloire et pour notre bonheur. C'est ainsi que notre entourage aussi sera attiré et émerveillé par la richesse de sa grâce. Paul dit encore, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je crois que nous avons besoin que de laisser au Seigneur revenir dans sa maison, de se remettre en question, comme cela nous a été dit lors de la préparation pour la Sainte Cène, oui, que le Seigneur rétablisse toutes les choses et laissons-le orner, décorer, bon, laissons-le d'abord nettoyer, mais laissons-le aussi orner, décorer notre vie, il saura le faire. Et ça sera toujours pour sa gloire et pour notre bien. Je termine en lisant ces versets de Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Quel privilège! Mais rappelons-nous, c'est lui le propriétaire de la maison, parce qu'il a payé très cher. C'est lui aussi qui doit être le résident permanent. Hein? Ce n'est pas à nous de prendre la direction, c'est à nous de lui laisser toute la direction de sa maison. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'au travers de ces quelques événements que tu as pu provoquer dans le temple, tu nous rappelles ce matin la grandeur de ta grâce, la grandeur de ta richesse pour nous. Tu es celui, Seigneur, qui a un plan merveilleux pour notre vie et au travers de notre vie aussi un plan pour notre entourage, notre voisinage. Seigneur, nous voulons vraiment te laisser toute la place. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué de te donner la priorité. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé des choses qui n'ont pas leur place nous envahir. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons manqué de reconnaissance, de louange. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été des témoignages de compassion, d'amour, de pardon, Seigneur. Mais puisque tu nous as parlé ce matin, que nous avons écouté, alors que ton Saint-Esprit vienne graver ces choses en nous et nous les rappeler jour après jour pour que nous soyons, Seigneur, cette maison, cette habitation de Dieu par l'Esprit. À toi soit toute la gloire. Amen.